La Voix Royale par André Malraux, troisième cassette, deuxième face, page 103. Comme les tarets dans les arbres géants, les moïs combattaient ici avec des objets fins et meurtriers. Dans ce recueillement, leur vie souterraine et leur inexplicable prudence devenaient plus menaçantes. Pour trois hommes sans escorte, conduits par un guide librement envoyé, il n'était pas besoin de lancettes et de rotins. Pourquoi protéger ainsi cette clairière? Grabeau ne veut-il rien négliger pour assurer sa liberté, pensa Claude, comme si la rareté de la pensée en ce lieu lui rendue immédiatement communicable, Perkin devina la question. Je suis persuadé qu'il n'est pas seul, c'est-à-dire pas seul chef. Ou alors, il aurait été tellement pris par la sauvagerie. Il hésita, le mot sembla s'étendre à travers la solennité végétale, justifié presque aussitôt par le guide accroupi qui grattait à son genou la plaque blanche d'une maladie de peau. Qu'il se serait tout à fait transformé. Encore l'inconnu. L'expédition les jetait sur cet homme comme sur la ligne invisible de la Voie Royale. Lui aussi les séparait de leur destin. Il leur avait pourtant accordé le passage. Les photos rapportées de Bangkok par Perkin vivaient en Claude avec l'autorité de la hantise. Un costaud, jovial, borgne, promenant à travers la brousse et les bars chinois du Siam, son casque en arrière et son gros rire, bouche ouverte et sourcils levés. Il connaissait ces visages où l'expression de l'enfant reparaît sous la brutalité de l'homme, dans le rire, dans les yeux ronds de l'étonnement, dans les gestes, casque enfoncé d'une grande tape jusqu'aux oreilles, sur la tête d'un copain ou sur celle d'un ennemi. Que restait-il ici de l'homme des villes? À moins qu'il n'ait été pris par la sauvagerie, Claude chercha le guide. Il chantait une ménopée qu'écoutait Xa près des bœufs immobiles. Les feux allumés pour la nuit crépitaient à petits coups, non loin des lits dressés sous les moustiquaires. Pas de tente à cause de la chaleur. Retire les moustiquaires, dit Perkin. C'est bien assez que ce sacré feu nous mette en pleine lumière. Essayons au moins de voir ce qui nous attaquerait. La clairière était vaste et toute attaque eût dû traverser d'abord un terrain découvert. S'il y a quelque chose, celui qui veille descend le guide et nous filons derrière ce buisson de droite pour échapper à la lumière. Même vainqueur, sans guide, tout ce qui pesait sur eux semblait réuni sous la main de Grabot comme un verrou. Que pensez-vous qu'il fasse, Perkin? Grabot? Naturellement. Si près de lui, de ce que nous attendons de lui, je me méfie de mes prévisions. Le feu crépitait toujours. La flamme, au contraire, montait droite et claire, presque rose, n'éclairant que les volutes saccadées de sa fumée, dessinant des reflets dans la masse du feuillage qui ne se distinguait plus qu'à peine du ciel. En face de l'enjeu qu'il avait engagé, il ne connaissait pas cet homme. Malgré les fléchettes, vous croyez qu'il va nous laisser passer? S'il est seul, oui. Et vous êtes sûr qu'il ne connaît pas l'importance de ces pierres? Perkin haussa les épaules. Un culte, moi-même. Et s'il n'est pas seul, son compagnon, ce n'est certainement pas un blanc. Et le loyalisme est fort parmi ceux qui osent monter par ici. Je lui ai rendu des services à Grabot. Il réfléchit, regardant les herbes du sol. Je voudrais savoir contre quoi il se défend. C'est avec ses vieux rêves, avec sa déchéance que l'on chauffe ses passions. Reste à savoir lesquelles. Je vous ai parlé d'un homme qui se faisait attacher nu par des femmes à Bangkok. C'était lui. Ce n'est pas tellement plus absurde que de prétendre coucher et vivre avec une autre créature humaine. Mais lui en est atrocement humilié. De ce qu'on le sache, on ne le sait pas, de le faire. Alors, il compense. C'est sans doute pour cela surtout qu'il est venu ici. Le courage compense. Et pour que les petites hontes ne pèsent pas lourd, il suffit même de ceci. Comme si la faible ampleur des gestes humains eût été inconciliable avec cette immensité, il désignait du menton la clairière et la fuite des monts dans l'ombre. Du mur d'arbre au lointain qui se confondait avec la nuit, du ciel où apparaissaient les étoiles plus claires que le feu à la grande forêt primitive, la force lente et démesurée de la chute du jour accablait Claude de solitude, rendait à sa vie son caractère traqué. Elle le submergeait comme une invincible indifférence, comme la certitude de la mort. Je comprends qu'il se fiche de la mort. Ça n'est pas d'elle qu'il n'a pas peur, c'est d'être tué. La mort, il l'ignore. Ne pas craindre de recevoir une balle dans la tête, la belle affaire. Et plus bas, dans le ventre, c'est déjà plus inquiétant. Ça dure. Vous savez aussi bien que moi que la vie n'a aucun sens. À vivre seul, on n'échappe guère à la préoccupation de son destin. La mort est là, comprenez-vous, comme l'irréfutable preuve de l'absurdité de la vie. Pour chacun. Pour personne. Elle n'existe pour personne. Bien peu pourraient vivre. Tous pensent au fait de... Ah, comment vous faire comprendre? D'être tué, voilà. Ce qui n'a aucune importance. La mort, c'est autre chose. C'est le contraire. Vous êtes trop jeune. Je l'ai comprise d'abord en voyant vieillir une femme que... Enfin, une femme, je vous ai parlé de Sarah d'ailleurs. Ensuite, comme si cet avertissement ne me suffisait pas, quand je me suis trouvé impuissant pour la première fois. Paroles arrachées, n'arrivant à la surface qu'en rompant mille racines tenaces. Il continuait. Jamais devant un mort. Vieillir, voilà, vieillir. Surtout lorsqu'on est séparé des autres. La déchéance. Ce qui pèse sur moi, c'est, comment dire, ma condition d'homme. Que je vieillisse, que cette chose atroce, le temps, se développe en moi comme un cancer, irrévocablement. Le temps, voilà. Toutes ces saletés d'insectes vont vers notre photophore, soumis à la lumière. Ces termites vivent dans leur termitière, soumis à leur termitière. Je ne veux pas être soumis. La forêt avait trouvé dans le vaste mouvement du soir son intime correspondance. La vie sauvage de la terre montait avec la nuit. Claude ne pouvait plus interroger. Les mots qui se formaient en son esprit passait au-dessus de Perken comme d'une rivière souterraine. Séparé par toute la forêt de ceux pour qui existent raison et vérité, cet homme en face de lui cherchait-il une assistance humaine contre ces fantômes serrés près de lui dans l'obscurité? Il venait de tirer son revolver. Une faible lueur glissa sur le canon. Toute ma vie dépend de ce que je pense du geste d'appuyer sur cette gâchette au moment où je fusse ce canon. Il s'agit de savoir si je pense, je me détruis ou j'agis. La vie est une matière. Il s'agit de savoir ce qu'on en fait, bien qu'on n'en fasse jamais rien. Mais il y a plusieurs manières de n'en rien faire. Pour vivre d'une certaine façon, il faut en finir avec ces menaces, la déchéance et les autres. Le revolver est alors une bonne garantie, car il est facile de se tuer lorsque la mort est un moyen. C'est là qu'est la force de Grabot. La nuit, tout à fait venue, plongeait jusqu'aux plus lointaines terres de l'Asie, rétablie avec le silence sur les solitudes. Au-dessus du petit bruit des feux, les voix des deux indigènes montaient, claires et monotones, mais sans portée, prisonnières. Tout près d'eux, un solide réveil matin battait avec précision le silence sans fin de la brousse. Plus que les feux, plus que les voix, ce tic-tac rattachait Claude à la vie des hommes par sa constance, par sa netteté, par ce cas d'invincible tout objet mécanique. Sa pensée émergeait, mais nourrie des profondeurs dont elle s'échappait, dominée encore par la puissance du surnaturel qui montait de la nuit et de la terre brûlée, comme si tout, jusqu'à la terre, se fût imposé de le convaincre de la misère humaine. Et l'autre mort, celle qui est en nous, demanda-t-il. Exister contre tout cela, Perken montrait du regard la menaçante majesté de la nuit. Vous comprenez ce que cela veut dire? Exister contre la mort, c'est la même chose. Il me semble parfois que je me joue moi-même sur cette heure-là. Et peut-être que tout va se régler bientôt par une flèche plus ou moins dégoûtante. On ne choisit pas sa mort. Mais d'accepter même de perdre ma mort m'a fait choisir ma vie. La ligne rouge qui suivait l'épaule bougea. Sans doute avait-il avancé la main. Geste infime, comme cette petite tache humaine aux pieds perdus dans l'ombre, avec sa voix saccadée dans l'immensité pleine d'étoiles. Cette voix seule, entre le ciel éblouissant et la mort et les ténèbres, venait d'un homme, mais avec quelque chose de si inhumain que Claude se sentait séparé d'elle comme par une folie commençante. « Vous voulez mourir avec une conscience intense de la mort sans faiblir ?»« J'ai failli mourir. Vous ne connaissez pas l'exaltation qui sort de l'absurdité de la vie lorsque l'on est en face d'elle comme une femme Il fit le geste d'arraché, déshabillé, nu tout à coup. Claude ne pouvait plus détacher son regard des étoiles. Nous manquons presque tous notre mort. Je passe ma vie à la voir. Et ce que vous voulez dire, parce que vous aussi vous avez peur, est vrai. Il se peut que je sois moins fort que la mienne. Tant pis. Il y a aussi quelque chose de satisfaisant dans l'écrasement de la vie. Vous n'avez jamais songé réellement à vous tuer. Ce n'est pas pour mourir que je pense à ma mort. C'est pour vivre. Cette tension de la voix n'était celle d'aucune passion. Une joie poignante, sans espoir, comme une épave tirée de profondeurs aussi lointaines que celles de l'obscurité. Chapitre 2, page 110. Encore des heures de marche depuis le réveil, entre les fléchettes de guerre devenues moins nombreuses et les sangsues. De temps à autre, le grand cri des singes se répercutait en cascade jusqu'au fond de la vallée, coupé par le choc assourdi des roues des charrettes contre les souches. Il commençait à voir le village Stieng au bout de la sente, comme dans un rond trouble de jumelles. Il avait envahi sa clairière. Claude regardait ses remparts de bois comme une arme inconnue. Ses poutres dressées en barrière et qui cachaient la forêt, ils étaient maintenant tout près, témoignaient avec violence d'une force que suggéraient jusqu'à l'angoisse les seuls objets surgis au-dessus du rempart. Un tombeau orné de fétiches en plumes et un énorme crâne de gaure. G-A-U-R. Il s'agit de l'Europe de l'Asie méridionale. La lumière de la grande chaleur luisait en moire sur les cornes, comme si la forêt disparue derrière la haute barricade n'eût laissé à sa place que ces objets insolites encastrés dans le ciel libéré des feuilles. Le guide déplaça encore quelques lianes de rotin et les retendit derrière les charrettes. Le portail était entrouvert. Ils entrèrent. Le moï qui le gardait le referma derrière eux de la crosse de son fusil. « Voilà qui vient de Grabot, enfin, » dit Claude. « Le levier du fusil n'est pas abaissé, » pensa Perken. Mais le son du bois du portail refermé le poussa en avant. À droite, des huttes trapues disposées presque au hasard, enfoncées à demi dans le sol comme les bêtes de la forêt. Des petits chiens abandonnés sur un monceau de détritus jappaient. Hommes et femmes regardaient, les yeux au bord des plaies, à l'affût. Le guide les dirigeait vers une case plus haute que les autres, dressée au centre d'un espace vide auprès de la perche qui supportait le gourd. Elle pesait sur cette solitude pleine d'hommes, autant que les vastes cornes pointées vers le ciel comme des bras dressés. Maison commune ou maison de chef, Grabot peut-être sous ce toit de palme, sous ses cornes. Il les avait protégées jusqu'ici puisqu'elles étaient vivantes. À la suite du guide, ils grimpèrent à l'échelle, entrèrent et s'accroupirent. Ils ne distinguaient rien encore, mais ils sentaient qu'aucun blanc n'était là. Perken se releva, s'accroupit un peu plus loin, se tournant d'un quart comme par déférence. Claude l'imita. Devant eux maintenant, derrière eux tout à l'heure, au fond de la case, une dizaine de guerriers se tenaient debout, armés de la courte arme des Stieng, mi-sabre, mi-coupe-coupe. L'un d'eux se grattait, et Perken, avant de le voir, avait entendu le crissement des ongles. « Libérez votre cran d'arrêt, » dit-il très rapidement et à voix basse. Il ne pouvait être question du Colt, C-O-L-T, que Claude portait à sa ceinture. Il entendit un déclic très léger et vit Perken tirer de sa poche quelques-unes de ses verroteries. Il leva aussitôt, au fond de sa poche, le cran de son petit Browning, B-R-O-W-N-I-N-G, lentement, pour qu'on l'entendît le moins possible, et sortit des perles bleues. Déjà Perken avait étendu la main et les transmettait, jointes aux siennes, avec des phrases en siamois que traduisait le guide. Regardez Claude, au-dessus du vieux qui doit être le chef. Une tache claire dans l'ombre, une veste d'Européen. Grabot doit être par là. Le vieux chef souriait, les lèvres distendues sur les gencives. Il leva deux doigts. « On va apporter la jarre, » dit Perken. Note, pour les serments de loyalisme, boire à la même jarre. Les jarres sont par ailleurs les objets les plus précieux des villages Stieng. Le soleil pénétrait en triangle dans la hutte. Il coupait le vieillard de l'épaule à la hanche, sa tête de nuque laissée dans l'obscurité, la saillie des clavicules et des côtes très appuyées. Son regard allait des blancs à l'ombre du crâne projeté devant lui, les cornes emmêlées par la perspective, mais d'une netteté de coupure. Elle se mit à trembler comme si un soudain bruit de choc qui arrivait lui secouait. Une jarre apparut au-dessus de l'échelle, un roseau dans son col, deux mains aux doigts allongés, respectueux, sur les côtés comme des anses. Posée sur ses deux poignets verticaux, elle semblait offerte à l'ombre encore frémissante, comme pour l'apaiser. Encore de légers chocs. Le porteur, qui sans doute avait heurté la perche au passage, cherchait les échelons. Il sortit enfin de terre, couvert des haillons bleus des Cambodgiens. Le chef Moï même n'était vêtu que du pagne. Lent et droit, et abaissa la jarre devant lui jusqu'au sol avec une mystérieuse prudence. Xa venait de crisper ses doigts sur le genou de Claude. « Qu'est-ce qui te prend ?» Le boy posait une question en cambodgien. Le porteur de jarre se tourna vers lui et aussitôt avec violence du côté du chef. Les ongles serraient la chair.
Lui.
Claude comprit soudain que l'homme était aveugle. Mais il y avait autre chose. Khmer Mieng, K-M-E-R, trait d'union M-I-E-N-G, cria Xa à Perken. Esclave cambodgien. L'homme replongeait vers le village, coupé par le plancher de la cave. Claude attendit un nouveau choc, comme s'il eût dû, en s'en allant, heurter à nouveau la perche. Mais l'attente de tous ces hommes inquiets, le silence même, semblait suspendu à la main du chef levée solennellement sur la jarre. Il l'abaissa et aspira l'alcool par le chalumeau de roseau, les yeux fermés. Il passa le chalumeau à Perken, puis à Claude, qui le prit sans dégoût. L'inquiétude était trop forte. Le regard mobile de Perken, qui tentait de voir ce qui se passait au dehors, l'accentuait. « L'absence de Drabeau m'embête terriblement. Nous nous engageons, et il ne s'engage pas, les gardes Moy. J'ai confiance en lui, mais quand même... » Mais eux, s'engagent ou non? Aucun n'oserait trahir l'alcool de riz. Mais si lui ne s'est pas engagé à leurs yeux, Dieu sait. Il parla siamois, le guide traduisit. Le chef répondit une seule phrase. Cette réponse avait intéressé singulièrement les hommes du fond, toujours immobiles, sauf lorsqu'ils se grattaient. Claude les distinguait enfin, l'œil attiré par les traces blanches des maladies de peau sur leur corps. Tous maintenant regardaient attentivement. « Il dit qu'il n'y a pas de chef blanc, » traduisit Perken. Son regard rencontra de nouveau la veste. « Je suis sûr qu'il est là. » Claude se souvenait du fusil, et regardait lui aussi la veste. Ses ombres semblaient doubles. D'un côté, l'ombre véritable, de l'autre, la poussière. La veste n'a pas été mise depuis longtemps, dit-il à mi-voix, comme s'il eût été craint d'être compris. Peut-être la poussière s'amoncelait-elle très rapidement. Pourtant, le plancher était propre. Les chandeliers fétiches aussi. Il était peu probable que Grabeau se vêtît ici comme à Bangkok, mais la phrase que Perken avait dite dans la clairière retomba sur Claude comme si elle eût été depuis quelques minutes suspendue dans cette case. À moins qu'il n'ait été pris par la sauvagerie. Pourquoi se cachait-il, substituant à sa présence l'attention de ces hommes, lourde comme celle des animaux? Perken de nouveau parlait au chef. La conversation fut très courte. Il dit qu'il est d'accord, ce qui ne signifie absolument rien. Réellement, je me méfie. Par prudence, j'ai dit que nous repasserions par ici et lui apporterions des gongs et des jarres, en plus des thermos d'alcool que je vais lui donner. Il aurait de meilleures raisons de nous assassiner à notre retour. Et il ne me croit pas. Il y a quelque chose qui cloche. Il faut absolument mettre la main sur Grabeau. En face, il n'oserait pas. Il se levait. Les pourparlers étaient terminés. Il atteignit l'échelle, contournant l'ombre du crâne comme s'il en eût craint le contact. Le guide les conduisit à une case vide. Le village revenait peu à peu à la vie. Des claies étaient abaissées. Des hommes au pagne ou au haillon bleu, des esclaves, s'affairaient autour de la case qu'ils venaient de quitter avec une agitation retenue d'aveugle. Perken avançait, mais son regard restait fixé sur eux. L'un commençait à traverser l'espace vide où eux-mêmes s'étaient engagés. Leurs routes pouvaient se croiser. Perken s'arrêta, prit son pied dans sa main comme si quelque épine l'eût blessé. Il le regardait de près. Pour assurer son équilibre, il s'appuya sur Xa. « Quand nous allons rencontrer celui-là, demande-lui quelle est la case du blanc. Quelle est la case du blanc ? Pas d'autres mots. Compris ?» Le boy ne répondait pas. L'esclave les avait presque rejoints. Pas le temps d'expliquer une seconde fois. Il était à portée des voix. Manqué ? Non. Presque poitrine contre poitrine, le boy parlait. Le visage de l'autre était tourné vers le sol. Il répondait à voix basse lui aussi. Croit-il répondre à un autre esclave ? Perken voulut se rapprocher de Xa, le faire traduire en hâte, le toucher et faillit tomber de son nom. Il avait oublié qu'il tenait encore son pied. Le boy avait vu le mouvement maladroit et bien qu'il se fût un peu éloigné, tendit les bras. Perken lui agrippa le poignet. « Alors ?» Xa le regardait avec le regard inquiet et résigné des indigènes habitués aux folies des Blancs, stupéfait de son âpreté, de sa voix assourdie, comme si quelqu'un eût pu les entendre et les comprendre sur cette place de terre battue que tâchait seulement l'esclave qui avait repris sa marche et un chien qui filait vers l'ombre. Près des bananiers. Pas d'équivoque. Il n'y avait dans la clairière qu'une seule touffe de bananiers à demi sauvage. Près d'eux, une grande case. Claude revenait sur ses pas, intrigué, devinant vaguement ce qui se passait. L'esclave dit qu'il est dans cette case. Grabot ? Quelle case ? Par prudence, Perken l'indiquait du doigt, la main contre la hanche. Nous y allons ? Un instant. Dételons nos bœufs. Ensuite, nous aurons l'air de tomber là-bas par hasard, enfin, selon le plus de hasard possible. Ils rejoignirent le guide. Devant la case qui leur était assignée, Xa commença à dételer. Ça suffit, Perken, maintenant filons. Si vous voulez. Malgré leur détour, la case aux bananiers les attirait avec violence. Qu'ils perdissent leur temps en discussion du nom, ils étaient à la merci de Grabot. S'ils devaient s'entendre, le plus tôt serait le mieux. « Si ça tourne mal, » demanda Claude. « Je le descends, c'est notre seule chance. En forêt, dans sa région, nous sommes foutus. » Grabot connaissait à coup sûr les revolvers dont on se sert à travers le pantalon. Ils étaient arrivés. Une case sans fenêtre, fermée par une porte rudimentaire, non par une clé. Un loquet poussé de l'extérieur. Il y a sans doute une autre ouverture. Un chien commença à hurler derrière la case. S'il continue à gueuler ainsi, pensa Perken, ils vont tous arriver. Il poussa le loquet et tira la porte à lui en hésitant, de crainte qu'elle ne fût fermée aussi de l'intérieur. Elle vint, aussi lente qu'il était inquiet, à cause du jeu du bois pendant les grandes pluies. Une clochette tintait. Tombant du toit, une barre de soleil oblique aux atomes serrés d'un bleu foncé, des masses d'ombre tournaient autour, comme autour d'un essieu, se montant et descendant. La plus haute précisa. Une traverse horizontale qui de profil devint nette. Quelque chose au bout l'attirait. Elle pivotait autour d'un grand baquet, d'une cuve. Elle tournait vers eux, perdant sa forme à mesure qu'elle s'éloignait de la projection glissante de l'ouverture plaquée sur la poussière du sol, autour de leurs silhouettes enchevêtrées, aux longs troncs et aux courtes jambes. Et toute la machine apparut enfin dans le rectangle de soleil qui tombait de la porte. Une meule. Le tintement s'arrêta. Perken avait reculé pour mieux voir en gagnant l'ombre, et Claude le suivait de côté, en crabe, incapable à la fois de rester où il était et de détourner son regard, pour marcher, de la lumière qui pénétrait dans la case comme un bloc de pierre. Mais Perken reculait toujours. Recul terrifié. Claude devinait la crispation de ses doigts qui cherchaient à s'accrocher, la stupeur d'un homme qui chavirait. Il ne disait rien, ne bougeait plus. Attaché à la meule, il y avait un esclave, de la barbe sur le visage. Un blanc, couvrant le hurlement du chien, Perken cria une phrase si vite que Claude ne la comprit pas. Il recommença aussitôt haletant. Qu'est-ce qui est arrivé ? L'esclave se rejeta en avant dans l'obscurité avec un frémissement aux épaules. La clochette sonna encore, un seul coup, comme un timbre. Mais l'homme s'arrêta.
« Grabot !»
gueula Perken. L'épouvante et l'interrogation de la voix s'écrasaient sur le visage tourné vers eux. Claude cherchait les yeux, mais ne distinguait que la barbe et le nez. L'homme tendit la main ouverte, les doigts écartés, cherchant à prendre quelque chose. Il la laissa retomber contre sa cuisse avec un bruit de chaîne. Il était attaché par des courroies de cuir. Aveugle, se demandait Claude, incapable de prononcer le mot, d'interroger Perken. Ce visage de souillure était tourné vers eux, cependant. Vers eux ou vers la lumière. Claude ne trouvait pas ce regard qu'il cherchait, mais Perken avait dit que Grabot était borgne, et l'homme se tenait de trois quarts, non de face, vers la porte.
« Grabot !»
Espoir de ne pas avoir de réponse, et pourtant, l'homme dit quelques mots, d'une voix au timbre faux.
« Vas !»
W-A-S, cria Perken suffoquant.
Mais il n'a pas parlé allemand.
Non, Moy, c'est moi qui...
Quoi ?
L'esclave tenta d'avancer vers eux, mais les courroies le fixaient à l'extrémité de la traverse et chaque mouvement le poussait dans l'orbe de la meule, à droite ou à gauche.
Fais le tour, bon Dieu !
Aussitôt les deux blancs sentir que ce qu'il redoutait le plus était l'approche de cet être. Ni répulsion, ni crainte. Une terreur sacrée. L'horreur de l'inhumain que Claude avait connu devant le bûcher. Mais comme tout à l'heure, il avança de deux pas, encore la clochette, s'arrêta de nouveau. Il a pourtant compris, murmura Claude. Il avait compris cette phrase aussi, malgré le ton très bas. « Qu'est-ce que vous êtes ? » dit-il enfin en français, de sa voix sans accord. Un désespoir de muet étreignit Claude, pressé par le multiple sens de la question. Répondre « Des noms français, blancs ou quoi ?»«
Bande de vaches !» bégaya Perken.
L'interrogation qu'il avait mise jusque-là dans tous ses mots, même dans l'ordre de faire le tour, était partie de sa voix pleine de haine. Il s'approcha et dit son nom. Claude voyait distinctement les deux paupières tendues, collées sur un os absent. Toucher cet homme pour que quelque chose enfin le reliât à lui. Comment extraire une pensée de ce visage effacé ? Sous ses paupières aux rides verticales, sous cette saleté terrible. Perken avait crispé ses mains aux épaules de l'autre.
Quoi ?
L'homme ne tournait pas son visage vers Perken, si près de lui, mais vers la lumière. Ses joues se contractaient. Il allait encore parler. Claude guettait cette voix, terrifié par ce qu'il attendait d'elle. Enfin, rien. L'homme n'était pas fou. Il avait traîné ce mot comme s'il cherchait encore. Mais ce n'était pas un homme qui ne se souvenait pas, qui ne voulait pas répondre. C'était un homme qui disait sa vérité. Et pourtant, Claude ne pouvait pas ne pas se souvenir de « suffit d'en finir ». C'était un mort. Il fallait ramener quelque chose dans ce cadavre, comme dans un noyer qu'on masse. La porte se referma en claquant. Coupés par ce rayon de cachot, les ténèbres retombèrent sur eux. Claude n'était que question. Les moilles, les mêmes moilles, étaient là autour de lui. Il prit conscience de cette obscurité de prison, se jeta à la porte qu'il ouvrit d'un coup, se retourna. Comme à leur arrivée, l'homme frappé par le jour avait fait un pas en avant avec sa clochette, avec sa secousse de bête terrorisée. Son réflexe était lié à la lumière et la voix mêlée. Perkin prit le bâton tombé dans le rectangle de soleil après le geste de Claude. C'était un caveçon, une branche terminée par une pointe de bambou semblable aux lancettes de guerre. Son regard chercha aussitôt les épaules de l'homme, mais il était tourné vers eux. Il sortit son couteau, coupa les sangles. La lame pénétrait mal dans les nœuds grossiers, bosselés mais habiles, et il coupait le plus loin possible des bras. Il fut obligé de se rapprocher, de couper le trait. L'autre, libéré, ne bougeait pas. « Tu peux avancer !» Il partit en avant le long du mur, suivant son ancien chemin, tirant des reins. Il faillit tomber. Perkin, sans savoir pourquoi, le fit tourner d'un quart, le poussa vers la porte. Il s'arrêta encore. Il découvrait la liberté dans ses épaules. Il étendit aussitôt sa main en avant, son premier geste clair d'aveugle. Perkin reposa sa main, trop libre depuis qu'il avait fini de couper, sur la traverse. Elle rencontra l'intolérable clochette. Il trancha son attache et la jeta à travers la porte à la volée. À son tintement sur le sol, l'homme ouvrit la bouche, de stupéfaction sans doute. Mais le regard de Perkin avait suivi le son. À quelques mètres dehors, des moilles tentaient de voir l'intérieur de la cave. Nombreux. Au-dessus des corps penchés, plusieurs rangs de têtes. D'abord sortir d'ici, dit Claude. Faites les premiers pas les yeux fermés, sinon vous allez hésiter à cause du passage à la grande lumière et ils sont fichus de vous tomber dessus. Fermer les yeux en cet instant, il eut l'impression qu'il ne les eut plus jamais rouverts. Il se jeta en avant en regardant le sol, toute sa force tendue pour ne pas s'arrêter. La ligne des moilles recula. Un seul était resté. Le maître de l'esclave, pensa Perkin. Il alla vers lui. Phya, dit-il. P-H-Y-A. Le moille balança ses épaules, puis s'écarta. Qu'avez-vous dit? Phya, chef, c'est le mot qu'employait toujours l'interprète. Peut-être reculer pour mieux sauter. Et l'autre, bon sang. L'aveugle était au seuil de la case, plus terrible dans la lumière du jour. Il ne les avait pas suivis. Perkin revint et le prit sous le bras. À notre case. Les moilles les suivaient. Chapitre 3. page 121. Dans la case du chef, personne. Au mur, dans l'ombre, la veste blanche. Les moilles les entouraient en demi-cercle à quelque distance. Perken reconnut le guide. Où est le chef ? Le moï hésitait à répondre comme si les hostilités eussent déjà été ouvertes. Il se décida pourtant. Parti, reviendra ce soir. C'est faux ? Demanda Claude à Perken. Filons à notre case d'abord. Chacun prit Grabot sous un bras. Non, je ne crois pas que ce soit faux. Les questions relatives au chef blanc l'ont inquiété. En un tel moment, il ne peut être parti que par prudence, pour appeler à l'aide éventuellement les villages voisins. En somme, c'est un guet-apens. Les choses se compliquent d'elles-mêmes. Ils se parlaient à travers le profil mort de Grabot. Le plus sage ne serait-il pas de partir avant son retour ? La forêt est pire qu'eux. Partir aussitôt. Abandonner les vivres et les pierres. Sans guide, la mort était certaine. Ils avaient atteint leur case. Xa les regardait avec épouvante, mais presque sans étonnement. Attelons-nous, demanda Claude. Perken regarda la hauteur du rempart de bois et haussa les épaules. Ils se réunissent. Les moïs ne les suivaient plus. Déjà d'autres les rejoignaient, armés. Et une fois de plus, comme si rien n'eût pu vaincre les formes de la forêt refoulée, Claude entra dans le monde des insectes. Des cases plantées au hasard, silencieuses et apparemment abandonnées tout à l'heure, les moïs sortaient sans qu'il vît par où, se coulaient dans le sentier avec leurs gestes précis de guêpes, avec leurs armes de mante. M-A-N-T-E-S, la mante religieuse, bien sûr. Arbalètes et lances se détachaient sur le ciel, parfois avec une précision d'antenne. Les hommes continuaient à arriver sans cri, sans autre bruit que le grattement des pas dans les buissons. Le beuglement d'un porc noir emplit la clairière, retomba. Le silence se fondit une fois de plus dans le soleil, et l'écoulement des hommes là-bas domina de nouveau la place. Les Blancs et Xa étaient entrés dans leur case, emportant armes et cartouches. Ils voyaient encore les charrettes qu'une pierre dépassait. Quelle défense attendre de cette case sur pilotis, fermée sur trois côtés, ouverte devant eux. Par terre, une clé. Ils l'adressèrent aussitôt. Haute d'un mètre, elle ne les protégeait qu'à mi-corps. Aux premières flèches, il faudrait se coucher. Ils étaient là comme à l'intérieur d'une baraque foraine, dans le grand rectangle libre au-delà de la place abandonnée. Les départs, les arrivées des moïs passaient sur les morceaux de remparts, entre les cases, les arbres cultivés. Devant, déserte, toute la place se débattait contre le silence ennemi. Fin de la deuxième piste de la troisième cassette, page 122, La Voix Royale, par André Malraux.